chapter six. Dans chapter six, les deux épîtres, la première à Timothée, c'est la petite, ont été écrites par Paul après sa première captivité. Elles ont chacune un caractère bien particulier et tirent celui-ci de la mission que Paul avait confiée à chacun de ses deux délégués, Timothée et Tite. Le second, en Crète, devait veiller à la bonne marche des croyants en vue de réaliser la vie chrétienne à la gloire du Seigneur. Timothée, dans la première épître qu'il est annoncé ici, lorsqu'il est à Éphèse, a pour mission de veiller au saint enseignement, à ce que des éléments étrangers, subversifs, ne viennent compromettre, contrarier, ne viennent apporter des éléments subversifs, des enseignements propres à égarer les saints. Donc à Éphèse, le Timothée se trouve, et nous pouvons faire une courte remarque à cet égard et dire qu'Éphèse, ce qui a été souvent rappelé d'ailleurs, Éphèse, dans l'ensemble des enseignements que nous trouvons relativement à cette assemblée dans le Nouveau Testament, est une illustration de l'Église, de l'histoire de l'Église tout entière, considérée sous l'angle de sa responsabilité. Paul avait travaillé 3 ans à Éphèse, une assemblée nombreuse avait été formée, l'état de cette assemblée était tel que Paul pouvait ouvrir son cœur et y déployer tout le conseil de Dieu dans l'épître qu'il leur est adressé. L'état de cette assemblée est tel que Paul n'éprouve aucune réserve et il déploie devant Dieu toute la richesse du conseil de Dieu relatif à Christ et à l'Église. La présentant sous ses divers aspects, notamment comme étant son corps, son époux. Il avait d'abord appelé les anciens d'Éphèse à Milet pour leur parler de la manière la plus solennelle, chose que nous trouvons dans Actes 20. Ici, il envoie Timothée pour empêcher l'action de certaines personnes qui apportaient des doctrines étrangères, mêlées de femmes, s'attachant à des généalogies interminables, et tout cela, dit Paul, contrariait l'administration de Dieu qui est par la foi. Donc, l'administration de Dieu, ce qui répond à la pensée de Dieu dans la marche, dans le témoignage que les siens rendent dans sa maison. Et cette administration, elle est par la foi, c'est-à-dire produite par l'ensemble de la vérité reçue dans le cœur et vécue. On réalise sans peine, en lisant ces lettres, quelle est la place de l'enseignement. La continuation du témoignage est subordonnée à la connaissance des pensées de Dieu, à l'enseignement relatif à ces pensées de Dieu concernant l'Assemblée, la bonne marche des croyants, la fidélité. Tout est lié à l'enseignement. Que de fois nous trouvons dans ces lettres la saine doctrine, l'enseignement, le saint enseignement. Dire aujourd'hui que nous pouvons nous passer de l'enseignement pour nous attacher davantage à l'évangélisation, c'est une erreur monumentale. Il n'y a pas de témoignage possible. Il n'y a pas de témoignage rendu à la gloire du Seigneur dans ce monde, si nous n'avons pas à la base l'enseignement de la sainte doctrine. Donc, pour résumer, Paul à Timothée, dans la première épître, l'envoie dans cette assemblée pour maintenir le saint enseignement, en vue que chacun sache comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une maison aujourd'hui sur la terre. Elle est constituée de pierres vivantes. Dieu n'habite plus dans des temples faits de mains comme dans les jours d'autrefois. C'est une maison spirituelle bâtie par le Seigneur prenant des pierres dans la carrière du monde, leur donnant la vie, les établissant sur le sûr fondement dont lui-même est la maîtresse pierre du coin, jusqu'à ce que, nous l'avons entendu dans la prière tout à l'heure, tout le travail du Seigneur soit terminé, que la dernière pierre soit ajoutée à l'édifice, et la pierre du fait qui couronne le tout, sur laquelle on s'écrira grâce sur elle. Nos frères ont souhaité considérer dans l'Ancien Testament des enseignements relatifs à la maison de Dieu dans ces jours d'autrefois. Nous avons parlé de l'enseignement il y a un instant. Précisément, Paul dira dans à Timothée, toute écriture est divinement inspirée pour enseigner. Donc, nous pouvons recourir à l'Ancien Testament, aux types, aux figures, aux images qu'il nous donne pour montrer dans ses divers aspects et sous une forme adaptée à notre vue limitée, montrer les enseignements précieux sous la forme de ces types et de ces images. En effet, le tabernacle, dans les jours d'autrefois, dans lequel le service de Dieu se développait, est appelé la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, qui était à Silo, dans le premier livre de Samuel, nous avons prononcé plusieurs fois cette mention. Et par exemple, le dernier verset de Juges 18 nous parle de la maison de Dieu qui était à Silo. Le tabernacle était donc, dans ces jours-là, la maison de Dieu sur la terre. Nous avons donc, à partir de cette maison de Dieu sur la terre dans ces jours-là, des enseignements que nous trouvons dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres qui sont bien propres à éveiller dans nos cœurs de l'intérêt en considérant, en comparant comment Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, veut nous intéresser à l'ordre qui convient à sa maison, aux différents services qui y sont rendus, et comment nous avons à les remplir. Ce qui est relatif aux sacrificateurs et aux lévites, dans la lecture qui a été faite et qui seront encore poursuivies plus tard si le Seigneur le permet, ne manquera pas d'être pour nous une mine très profitable d'enseignement, d'édification et aussi d'encouragement, afin que, comme il a été lu, nous poursuivions. Nous ne cessions pas d'avoir devant nous ce but afin que chacun sache comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. Car nous ne sommes pas chez nous dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu à laquelle un ordre convient. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, gens de sa maison, concitoyens des saints. Et dans la maison de Dieu, nous avons donc à nous conduire de la manière qui convient à Dieu. Si nous entrions dans une maison importante de ce monde, nous aurions à nous conformer à ce qui convient à l'ordre établi par le maître de maison. Il n'en est pas autrement dans la maison de Dieu. La propre volonté de l'homme, ses arrangements, son imagination, pour toutes sortes de choses qu'il croit utiles ou opportunes, n'y a aucune place. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, c'est l'assemblée de Dieu aujourd'hui. Et quel bonheur d'en faire partie et de pouvoir recevoir ces enseignements que le Seigneur veut nous donner à la veille de son retour et pour savoir.
Quand Paul écrit aux Corinthiens et va leur parler de la table du Seigneur, de la scène du Seigneur, dans le chapitre 10 et 11, de la première épître, il introduit le sujet en disant « Je parle comme à des personnes intelligentes. » Et en effet, c'est ainsi que le Seigneur s'adresse à nous, comme pour nous dire « Je veux dire que vous sachiez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites. » L'ignorance est inexcusable. L'ignorance des personnes instruites comme nous l'avons été. Pour la plupart d'entre nous, élevés dans l'assemblée, ayant depuis l'enfance reçu les enseignements qui sont à notre portée du ministère oral, surtout le ministère écrit. Si au milieu d'une chrétienté bien ignorante et
volontairement laissé dans l'ignorance par des chefs religieux, souvent de mauvaise foi, mais souvent ignorants eux-mêmes, au milieu d'une telle chrétienté, Dieu nous a fait la grâce de nous instruire d'une manière extraordinaire, nous faisant de nous les héritiers de ces frères du commencement qui nous ont laissé un héritage incomparable. Et bien, nous avons à savoir pourquoi nous rendons culte, nous nous servons de telle manière et pas de telle autre, pourquoi nous sommes ici et pas ailleurs, ce que nous y faisons, à comprendre la portée des différentes instructions de la parole. Alors il y a bien des questions qu'on peut se poser en rapport avec l'Assemblée, la question qui rend culte, la question où, le terrain, la question pourquoi faire, le but. Et puis il y a cette question comment, que nous trouvons dans la première Timothée, comment il faut se conduire, la responsabilité d'un ordre selon Dieu que nous avons respecté, parce que comme on vient d'entendre, ce n'est pas notre maison, c'est celle de Dieu. Et le Seigneur y est Seigneur. Précisément en relation avec la scène, comme en relation avec la table, il nous a dit que c'est la scène du Seigneur, que c'est la table du Seigneur. Et ici, c'est la maison de Dieu. Alors, ce fait-là nous invite à y entrer avec intelligence, à comprendre comment il faut nous y comporter. Dans les chapitres 12 et 13 du livre de l'Exode, sur lesquels nous reviendrons certainement, les questions sont posées par les enfants, en particulier à leurs parents, pour demander quel est le sens de ce qu'ils font. Quand la Pâque sera perpétuée d'année en année, les enfants auront à poser cette question, que signifie pour vous ce service, pour vous? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous faites quelque chose inconsciemment parce que vous l'avez toujours fait, parce que vous avez été conduit là par vos parents, parce que c'est quelque chose qui répond à vos affinités, aux sympathies naturelles que nous éprouvons les uns pour les autres. Une forme de motif peut peut-être invoqué. Mais alors, que signifie pour vous ce service? Et au chapitre 13, de ce même livre de l'Exode, qui suit, nous aurons l'occasion certainement de revenir sur ce point, à propos des Lévites et des premiers-nés. Mais nous avons là également la question à propos de la fête des pains sans levain, à propos de la mise à part, à propos de la séparation. Et là, nous avons également à comprendre pourquoi nous sommes séparés, pourquoi nous ne faisons pas, nous ne nous associons pas à tout milieu religieux, à tout culte qui se rend dans ce monde, à tout groupe chrétien un peu conséquent, un peu évangélique, comme il n'en manque pas. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous rendons culte de cette manière? Dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, l'introduction du chapitre 12, sur laquelle certainement nous reviendrons aussi, dans le cours de la journée, il nous est dit, il nous est parlé d'un service intelligent. Service intelligent, c'est-à-dire conscient, pleinement réalisant ce que nous faisons, ce que nous sommes appelés à rendre à Dieu, et qui attend que nous ne soyons pas des êtres passifs, inertes devant lui, simplement suivant le courant, mais que nous mesurions, que nous entrions avec nos esprits et avec nos cœurs dans la pensée de l'esprit, dans la compréhension de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et c'est le motif pour lequel nous nous rencontrons aujourd'hui pour nous pencher ensemble sur la parole et pour mieux comprendre ensemble les uns et les autres ce que le Seigneur attend d'être privilégié comme nous le sommes.
verset 17. Grâce à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, et de ce qu'ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et donc, utile de rappeler que cette instruction est absolument nécessaire, non pas peut-être comme des hommes l'envisagent, mais selon ce que Dieu, la manière dont Dieu l'envisage. C'est Dieu qui enseigne. Et nous savons que dans cette chrétienté, nous entendons souvent dire, c'est l'Église qui enseigne. C'est Dieu qui enseigne par sa parole et par son esprit. Et pour être donc enseigné de Dieu, il est nécessaire de le connaître, d'avoir des relations avec lui par l'Esprit Saint. Le deuxième passage, dont il est parlé également de cette doctrine, et dans l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons le chapitre 4, où après avoir parlé de ceux qui n'avaient pas la vie, verset 17, il leur dit qu'ils n'avaient pas à marcher, marcher plus comme le reste des nations. Le verset 20 dit, mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus.
C'était aussi un verset dans l'Épître aux Thessaloniciens, la deuxième, première dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous souvenons tous de quelle manière ces croyants avaient eu une oreille attentive pour écouter l'enseignement que l'apôtre Paul leur avait apporté. Et ils avaient reçu la parole au chapitre 1, verset 6. Accompagnés de grandes tribulations, mais avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte qu'ils étaient devenus des modèles pour tous ceux qui croient. Et au chapitre 2 encore, l'apôtre rappelle qu'elle entrait la parole de Dieu avec eux dans leur cœur. Et il dit au verset 13 en particulier, nous rendons sans cesse la grâce à Dieu de ce qu'ils ont reçu de nous. La parole, la prédication qui est de Dieu. Vous avez accepté non la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle est véritablement, la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée, dans le Christ Jésus. Précieux témoignage, n'est-ce pas, rendu à ces croyants. Attentif à recevoir la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit en eux, à la mettre en pratique.
Encore en Philippiens 3, montrant bien que les choses sont ordonnées de Dieu, qu'elles ont leur source en lui et que tout doit être réalisé avec les ressources qui viennent de lui par l'action de l'Esprit de Dieu. Ici, en Philippiens 3, l'apôtre dit au verset 3, « Nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu et qui n'avons pas confiance en la chair, c'est ce qui est de Dieu qui doit compter, ce qui vient du Seigneur et ce qui est par conséquent pour lui, ce que ta main nous a donné, nous le rendons. Les ressources sont là, toute la source est là, tous les moyens sont là. » C'est la maison de Dieu. Le Seigneur est là pour vous exprimer dans le corps comme chef. Et tout doit être réalisé avec le sentiment que seul ce qui est en Dieu peut être réalisé à sa gloire.
Intéressant de considérer
comment Dieu parle dès que son peuple lui appartient en vertu de la rédemption. En Exode 12, Dieu pourra dire que ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois de l'année. Le septième mois civil devient le premier mois de l'année, une nouvelle période, une nouvelle phase, une nouvelle existence pour Israël commence. De l'esclavage en Égypte, des fournaises de fer au milieu desquelles il est astreint à un travail exténuant sous la main d'un implacable adversaire, il va se trouver maintenant libéré et entrer dans le chemin qui conduit vers ce pays ruisselant de lait et de miel que Dieu leur a donné. La rédemption vous est présentée sous deux faces. D'abord par le sang de l'agneau qui est répandu et aspergé sur les portes des Israélites. Dieu agit comme juge et répond ainsi aux exigences de sa justice en fournissant lui-même, dans sa grâce, la ressource pour faire face à ces saintes exigences. Le sang de l'agneau, la rédemption par le sang, la vie offerte à la place du coupable, et Dieu maintenant pouvant entrer en relation avec ce peuple qui tire alors d'Égypte à travers la mer Rouge, c'est la rédemption par puissance, a-t-on dit. Par la mort, Dieu délivre de la mort. Celui qui en avait le pouvoir a été entièrement défait. Et sur l'autre rive, on chante alors le cantique de la rédemption. Et c'est dans ce cantique que pour la première fois, nous avons la mention de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Dieu ne peut habiter avec son peuple, au milieu de son peuple, qu'en vertu de la rédemption. Le terrain est posé sur lequel Dieu peut recevoir devant lui, auprès de lui, le croyant qui est au bénéfice de la rédemption opérée par le sang de Christ, la rédemption opérée dans sa résurrection toute puissante, nous plaçant sur un nouveau terrain, le terrain de la rédemption accomplie, le terrain de la nouvelle création, fondée sur la mort et la résurrection de Christ. Dès lors, chapitre 13 de l'Exode, Dieu dit, eh bien ce peuple m'appartient et tout premier-né est à moi. Je prends pour moi ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus vigoureux. Le premier-né représentait ce qui était la force, la vigueur de l'homme. Et Dieu dit, tout premier-né m'appartient. Dieu a donc des droits fondés sur nous en vertu de la rédemption. Et il prend pour lui, pour sa possession, tout premier-né, chapitre 13 du livre de l'Exode, montrant ainsi que désormais, comme Paul nous le montrera d'une manière si explicite dans ses écrits, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ, nous appartenons à Dieu. Nous avons été achetés à prix, afin que ceux qui vivent, dira-t-il, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Je ne vis plus, dit-il, mais Christ vit en moi. Et je vis, Christ est ma vie, je n'ai plus d'autre objet, je n'ai plus d'autre but que de vivre pour Christ, que de servir Christ dans ma vie. C'est pour cela que j'ai été laissé dans ce monde. Un peu plus tard, Dieu va prendre la famille de Lévi, la tribu de Lévi, à la place des premiers-nés. Ce serait sans doute trop long de parler de la famille de Lévi, les raisons pour lesquelles Dieu change de disposition et prend plutôt une tribu tout entière, celle de Lévi, en lieu et place de tous les premiers-nés de toutes les familles d'Israël. Il faut seulement se souvenir que Lévi illustre bien notre propre histoire. Quand nous le voyons aux prises, quand nous le voyons avec son frère Siméon, ils sont aux prises avec les gens qui les entourent et ils manifestent quelque chose qui va remplir, ils vont manifester des actes qui vont remplir leur père Jacob de chagrin, de tristesse et de honte. En effet, en temps de paix, ils vont se conduire avec une cruauté sans égale. répond : tu es l'homme comme nous le trouvons. Jacob, dans Genèse 49, montrant déjà ce qu'est le cœur de l'homme à travers ses fils, non pas seulement ils ont tué des hommes, mais ils ont tué l'homme. Jacob annonce ainsi déjà ce que serait la fin de l'histoire de l'homme, montrant toute sa haine en rejetant et en faisant crucifier le Seigneur Jésus. Ils ont tué l'homme. En Ruben, le premier-né, nous avons la corruption, et en Lévi, associé à son frère Siméon, nous avons donc la violence. Mais plus tard, dans une circonstance bien particulière et solennelle, Lévi va mettre son glaive non plus au service de la chair pour assouvir des pensées de violence, des pensées mauvaises liées à ce que nous sommes dans la chair, mais il va mettre son épée au service de l'Éternel lorsque Moïse fera cet appel « Quiconque, à moi quiconque est pour l'Éternel ». Dès lors, nous pouvons dire que nous assistons à une autre vie chez Lévi. C'est la vie maintenant au service de Dieu. Autrefois, c'était l'homme qui servait la chair. Maintenant, cet homme sert l'Éternel, met son épée au service de l'Éternel, et il est dit qu'il n'a pas connu ni son père ni sa mère, n'a pas connu ses frères, n'a pas connu ses fils. Les droits de Dieu sont imprimés sur lui de telle manière qu'il renonce à satisfaire à quelques relations humaines, sentimentales, charnelles, quelles qu'elles soient. Sans doute Dieu ne froisse jamais ses sentiments naturels, mais nous voyons dans Lévi quelqu'un qui se place au-dessus des exigences des sentiments naturels pour servir le Seigneur. De sorte que Dieu va lui donner une récompense extraordinaire, l'approcher de lui d'une manière particulière pour remplir son service. Alors nous disons encore seulement ceci pour l'intelligence de l'histoire de Lévi. Lévi a donc trois fils. Nous les trouvons cités bien des fois. Ce sont donc Gershon, Kehat et Merari. Gershon, Kehat, Merari, trois fils de Lévi. Kehat, celui du milieu, deviendra par voie de préférence, selon la souveraineté de Dieu, celui qui sera le plus honoré. Kehat lui-même aura quatre fils. Nous savons les noms de ses fils, c'est donc Abraham, Jitzéar, Uziel et Hébron. Dieu prend un des fils de Kehat, Abraham, et celui-ci sera donc le père d'Aaron, de Moïse et de Marie. Et dans cette famille de Kehat, en descendant par Abraham, dans un de ses fils, Dieu prend Aaron et sa famille pour en faire alors une famille extrêmement privilégiée, la famille sacerdotale. Donc nous résumons, Lévi, qui est maintenant au service de Dieu, est choisi au lieu de tous les premiers-nés, et toute sa famille sera introduite dans le service de l'Éternel. Mais dans cette famille, en descendant par Kehat, un des trois fils de Lévi, et en descendant encore par Amram, un des quatre fils de Kehat, nous arrivons à la famille d'Aaron que Dieu va privilégier de façon particulière, car ce seront eux qui entreront à l'intérieur de la maison et pour remplir les services les plus précieux dans la tente d'assignation dans la maison de Dieu. Pour conclure, chers amis, par cette pensée si douce pour nous, que tous nous sommes des Lévites et tous nous sommes des sacrificateurs. Autrefois, il était impossible d'être un Lévite et un sacrificateur tout à la fois. Un Lévite avait son service et un sacrificateur avait sa fonction. Mais aujourd'hui, nous sommes tous à la fois des sacrificateurs et tous à la fois des Lévites. Nos frères pourront bien nous dire quelques vérités précieuses sur ces sujets. Le service de la sacrificature étant effectivement le plus élevé, le plus précieux, c'est celui qui consiste à entrer au-dedans du voile pour offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu. C'est dans le culte que nous réalisons ce service de la sainte sacrificature. À la suite du Seigneur, nous entrons par un chemin nouveau, vivant, qu'il nous a consacré à travers le voile, et nous paraissons devant Dieu pour offrir à l'intérieur du voile, dans le sanctuaire, des sacrifices. Quand nous ressortons du sanctuaire, nous avons alors diverses fonctions, divers services à remplir. mais ils sont subordonnés à ce service supérieur. Et lorsque nous sortons du sanctuaire, c'est alors pour remplir les services, les fonctions liées aux différentes charges que nous pouvons attribuer aux Lévites. Nous aurons l'occasion sans doute de revenir sur ces détails. Nous sommes donc tous les croyants, Lévites et sacrificateurs, nous le sommes dès notre conversion. Le chapitre 13 de l'Exode est introduit par cette parole, rappelée déjà, « Sanctifie-moi tout premier-né, il est à moi ». Le chapitre 12 illustre la rédemption, un côté de la rédemption, le peuple est encore en Égypte, il n'a pas encore passé la mer Rouge, c'est un autre côté de la rédemption. Mais le sang est là sur les maisons, l'agneau pascal a été mangé, on s'est identifié avec le sacrifice, on a aussitôt pris le caractère d'étranger, puisque la Pâque a été mangée, les reins saints, le bâton à la main et les sandales aux pieds, le caractère d'étranger réalisé. Et alors, ce peuple devient un peuple. Dès ce jour-là, Dieu aussitôt met, pour ainsi dire, la main sur lui, ce peuple m'appartient. J'ai payé le prix pour l'avoir. Sanctifie-moi tout premier-né, il est en moi. Aussitôt, chapitre 13, Dieu ne suppose jamais dans notre vie un temps de préparation, un temps d'attente, jusqu'à ce qu'on soit rendu capable de servir. Dans certaines sectes, on vous dira, ah, maintenant, vous êtes converti, vous avez la vie, mais il vous faut attendre que le Saint-Esprit descende sur vous, et puis alors vous pourrez faire de grandes choses. Jamais le Seigneur ne laisse supposer qu'un croyant dispose d'une période pendant laquelle il s'appartient à lui-même. Il appartient au Seigneur du jour où il est à lui, il a saisi par la foi l'œuvre de Christ. Donc cette sanctification, cette mise à part, cette réalisation des droits du Seigneur sur nous, elle est immédiate. Il est à moi. Et sanctifie-moi, mets-moi à part, c'est-à-dire, les premiers-nés étaient à part, et puis les Lévites sont substitués, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais cette sanctification, elle correspondait à une fête qui était étroitement associée à la Pâque. On était ainsi par là, c'était la fête des pains sans levain. Les pains sans levain, l'absence de péché, illustrant dans cette période complète de 7 jours, la fête des pains sans levain durant 7 jours, l'image sans doute là de toute la vie d'un croyant. 7 jours, période complète, correspondant à la vie du croyant, qui désormais doit être exempte de péché. C'est une vie de mise à part. Le croyant appartient au Seigneur. Il est Seigneur pour lui, pas seulement sauveur. On nous donnait plus tard rendez-vous au ciel en disant, eh bien, je te laisse un peu maintenant, tu es sûr de ton salut, tu m'appartiens, tu es tranquille. Jamais le Seigneur ne nous laisse supposer que nous nous appartenons à nous-mêmes. S'il ne revendique pas expressément ses droits sur nous, et jamais dans l'Évangile on ne voit dire à quelqu'un qui l'a guéri maintenant, après tout ce que j'ai fait pour toi, il faut que tu m'accompagnes, que tu fasses ceci ou cela. Mais les droits du Seigneur sur nous sont les droits de l'amour. Mais néanmoins, ce sont des droits, et non moins impératifs, parce que ce sont les droits de l'amour. Alors le Seigneur a des droits sur chacun de nous qui lui appartiennent. Nous aimons à penser que si chacun est à lui, qu'il réalise les droits que le Seigneur a sur sa vie. Et ces droits que le Seigneur a sur notre vie, nous avons en détail, le propos n'est pas de ce chapitre 13 de l'Exode, mais le sujet se tient. Nous avons au verset 9 du chapitre 13 de l'Exode les questions de la main, les questions des yeux, les questions de la bouche. On peut dire en détail, voilà, les droits du Seigneur revendiqués sur notre être tout entier. Nos jours, nos biens, nos corps, nos cœurs, comme nous chantons, parce que tout ce que nous sommes, en détail. On veut bien peut-être du Seigneur, si nous devons dire en gros, dans notre vie, si on voulait le Seigneur, mais bien le Seigneur. Mais nous avons le détail, c'est-à-dire les différents circonstances, ces moments, on dirait tout ce que nous sommes qui lui appartient en détail. Et on est capable.
fatigué, les chrétiens, ils ont la tête mise au service du Seigneur, parce qu'il est le Seigneur. La peuple qui a été racheté appartient à celui qui l'a racheté. Et le Père, dans ce chapitre 12, les frères des autres ont bien décidé que, à peine en quelque sorte, nous sommes à l'abri du sang de Christ, eh bien, nous sommes appelés de sa part à mener une vie de sainteté pratique. Et c'est très frappant dans ce chapitre 13 de voir combien il est insisté sur l'absence de levain. Ne devait pas se trouver, bien sûr, dans la maison, se racheter, ni dans tous ses confins, c'est-à-dire que le péché ne doit pas agir ni publiquement, ni en secret dans nos vies. Et c'est une chose bien importante que nous réalisions en effet les droits du Seigneur sur nous-mêmes, sur tout ce que nous sommes, sur tout ce qui nous appartient. C'est ce que le Seigneur attend des siens. Et en quelque sorte qu'à son amour, notre amour répond. Car l'apôtre a insisté pour dire qu'il était un esclave de Jésus-Christ, mais c'était un esclave, on peut dire, par amour. Si nous réalisons ce que le Seigneur, les autres, ce que le Seigneur a opéré pour nous à la croix du calvaire, eh bien, comment pourrions-nous chercher, comme nous le faisons si facilement, à vivre pour nous-mêmes et non pas pour lui. Pensez aussi à ces passages que nous connaissons très bien dans l'Épître de Pierre, je voulais les rappeler. Premier Épître de Pierre, chapitre 2. D'abord, nous sommes appelés à rejeter toute malice, toute opprobre, hypocrisie, l'envie, toute médisance, à désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur vêtement intellectuel, afin que vous croissiez par le salut. Et puis, et ensuite, un peu plus loin, quand il dit que nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous est rappelé ce à quoi nous sommes appelés. Édifié comme une maison spirituelle, verset 5, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et plus bas, alors, un autre aspect, on peut dire, de la vie chrétienne, verset 9, donc vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alors là, on peut dire les deux aspects tout à fait frappants de la vie du chrétien. D'abord, cette sainte sacrificature pour offrir le sacrifice spirituel, cette adoration qui doit être rendue à Dieu. Et ce service de sacrificateur qui est le premier dans la vie du croyant, et puis ensuite cet autre aspect de la vie chrétienne qui est celui du témoin. Du témoin qui est là pour annoncer les vertus de celui qui l'a appelé les ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Question de la fête des pains sans levain. On a parlé tout à l'heure à propos de. On a parlé des questions que posaient les fils aux pères. Dans ce chapitre 13, au verset 8, il y a au fond une réponse que fait le père au fils. Et tu raconteras ces choses à ton fils en ces jours-là, disons, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. Il y a le sentiment de ce que l'Éternel m'a fait. Et qui est en rapport direct avec la question des fils, plutôt conversé au chapitre 12, quand il est dit que signifie pour vous ces choses. Ce que l'Éternel m'a fait. Et on pense à ce que l'apôtre Paul pouvait dire quand il disait le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi.
Nous avons été trouvés, Paul, en est aux Thessaloniciens, pour servir, pour tourner des idoles vers Dieu. Pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, dont les deux grands axes de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas dire que nous attendons le Seigneur sans servir le Seigneur. Et nous ne pouvons pas le servir réellement sans connaître, sans réaliser pratiquement ce sentiment qu'il vient. Tourner des idoles pour servir dernier verset de 1 Thessaloniciens 1, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Le service vient d'en être parlé, il a donc deux grands aspects. Et nous aimions rappeler un verset qui était devant nous hier dans une visite d'un cher ami, dans Lévitique 8, et nous illustrerons également par ce verset l'enseignement que notre frère M. Quéquenin donnait tout à l'heure sur la nécessité, sur le fait que nous avons à servir le Seigneur dès notre conversion sans délai. Dans Lévitique 8, chacun sait qu'il s'agit du sacrifice de prospérité, une image bien saisissante du culte. Et au verset 31, nous avons ceci. Le sacrificateur fera fumer la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. La poitrine, le siège des affections, l'amour du Seigneur, est donné en partage, en communion aux saints, aux croyants, en communion avec le Seigneur et avec le Père qui nous l'a donné. Nous nourrissons de la poitrine. Elle est pour Aaron et pour ses fils. Le Seigneur se réjouit dans l'accomplissement de son œuvre, dans l'amour qu'il a poussé à s'occuper de nous et à faire de nous de bien-aimés enfants de Dieu. Il y a là une joie commune à la fois pour Aaron et pour ses fils. Et nous lisons ensuite. Vous donnerez aux sacrificateurs, etc. Car au verset 34, j'ai pris des fils d'Israël, la poitrine tournoyée et l'épaule élevée, je les ai donnés à Aaron et à ses fils. La poitrine, le siège des affections, l'épaule, la puissance. Nous nous nourrissons de l'amour du Seigneur manifesté dans le don de lui-même et nous nous réjouissons dans la puissance déployée, l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons qu'il a déployé dans la résurrection. Ces deux grandes choses sont à nous et nous les possédons dès notre conversion. Au verset 35, en effet, c'est là le droit de l'onction d'Aaron et de l'onction de ses fils dans les sacrifices de l'Éternel des pare-feux du jour qu'on les a fait approcher. Remarquons toute la plénitude des privilèges donnés aux fils d'Aaron et Aaron leur père bien entendu, mais du jour qu'on les aura fait approcher. Nous avons été approchés par le sang du Christ. Et deux jours que nous avons été approchés, voilà notre part. La poitrine, l'épaule, nous réjouir dans les choses les plus précieuses, en communion avec Dieu, touchant son Fils, concernant son œuvre et la puissance de sa résurrection qu'il a placée maintenant au plus haut des cieux, où il paraît pour nous devant la face de Dieu. Deux jours, on les a fait approcher. Et un peu plus loin, en verset 36, la part des fils d'Israël, ce que l'Éternel a commandé de leur donner de la part des fils d'Israël, du jour qu'il les aura voints. L'onction, l'image de l'Esprit Saint que nous recevons comme sceau. Alors tous ces sacrifices, tous ces privilèges, tout ce qu'il y avait de plus précieux que Dieu donnait à Aaron et à ses fils, il leur donnait du jour qu'il les avait fait approcher et du jour qu'ils avaient été témoins. Nous avons été approchés par l'œuvre de Christ, approchés de Dieu, Ephésiens 2. Ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Et voilà alors l'entrée, la porte d'entrée dans la carrière du service. Du jour que nous sommes approchés, du jour que nous sommes moins. Donc, comme notre Père le disait si bien tout à l'heure, aucun délai lorsque nous avons été mis au bénéfice de tous ces privilèges rappelés dans ce verset. Nous entrons dans la carrière du service. Dans ce service, le livre des Nombres présente plusieurs aspects. Nous sommes d'abord des combattants dans ce livre des Nombres. Nous sommes ensuite des serviteurs, des lévites, et enfin, nous sommes des sacrificateurs. Nous devons bien retenir ces trois aspects du service que nous trouvons au désert dans le livre des Nombres. Le peuple de Dieu partagé dans ces grandes familles, les combattants, ceux qui sont dénombrés pour le service de la guerre, les lévites, ceux qui sont employés au service de l'Assemblée d'Israël, au service du tabernacle, et les sacrificateurs qui possèdent les privilèges les plus précieux, s'occuper de l'autel, des saints ustensiles
et d'entrer dans la présence de Dieu, dans le tabernacle. Personne, donc, dans ces jours d'autrefois, ne pouvait être un sacrificateur, un lévite et un combattant. Chacun avait sa fonction bien définie par l'Éternel. Mais aujourd'hui, pour nous, cela vient d'être rappelé, nous sommes à la fois des combattants. Nous sommes dans un monde où nous avons à combattre contre les puissances spirituelles de méchanceté. C'est un aspect de la vie chrétienne. D'autre part, nous sommes serviteurs, tous des lévites, et enfin, nous sommes sacrificateurs sans aucune distinction. Le sacrificateur est le service sans doute le plus précieux. Aucune différence. Nous sommes tous sur un même pied d'égalité dans le service de la sacrificature. Il y a unité sans doute, mais dans l'égalité. Dans le culte que nous rendons, il n'y a pas de famille privilégiée, il n'y a pas de clergé, il n'y a personne qui peut s'interposer entre Dieu et les croyants. Personne ne peut prendre une place, une place autre que celle que tous ses frères occupent. Un frère qui agit dans le culte, il n'agit pas autrement que dans le service de la sacrificature, n'étant que la bouche de l'assemblée, pour indiquer un cantique, pour exprimer, pour souhaiter le chant d'un cantique qui est sur le cœur de tous. Et ce n'est pas peut-être le service le plus facile. On pense généralement que c'est un cantique est une chose relativement aisée. Cela est vite dit, cela ne demande pas évidemment un long effort de délocution, mais ce n'est pas très facile d'indiquer un cantique qui répond à l'état de l'assemblée, au niveau du culte et à la pensée de Dieu qui est placée devant nous par l'Esprit dans le culte. Mais c'est un service que nous rendons dans le culte, mais comme sacrificateur. Celui qui rend grâce n'est que la bouche de l'assemblée. Nous avons donc un service commun sur un pied d'égalité, les frères qui se font entendre, n'étant que la bouche de l'assemblée sans qu'ils jouissent d'aucun privilège, d'aucun statut, d'aucune position particulière. Nous devons bien être clairs sur cela, car dans la chrétienté, cela a été entièrement mis de côté. Lorsque nous agissons comme lévites, nous agissons comme serviteurs pour l'édification de l'Assemblée, dans l'unité toujours produite, indiquée, amenée par l'Esprit de Dieu, mais il y a là, en même temps que l'égalité, la diversité. Tous les services ne sont pas les mêmes. Le service de présenter la parole, le service du diacre, le service d'un ancien, le service qui consiste à amener de la bénédiction rien que par des choses simplement matérielles, ce sont des services que le Seigneur apprécie, qui sont très précieux. Les services sont différents, mais il y a toujours unité dans le service et en vue de l'édification. Ce service n'est pas rempli au culte. Le service dans les lévite n'a pas sa place au culte. Encore que, comme le disait un cher frère de votre pays, peut-être le lévite intervient-il pour que nous ayons notre attention attirée, que notre esprit soit bien dirigé sur la pensée principale du culte, par la lecture d'un verset, pour soutenir le ton du culte. Mais le service de lévite n'a pas sa place au culte. Ce n'est pas la réunion dans laquelle, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le moment dans lequel le service de lévite s'exerce. Le service de lévite s'exerce en dehors du sanctuaire, en dehors du voile. Tandis que dans le culte, nous pénétrons, nous le chantons sur ses traces jusqu'au ciel où il l'a reçu. Et là, nous le répétons, 12 sacrificateurs dans l'égalité, mais dans l'unité, évidemment pour jouir de la bénédiction de la présence du Seigneur et être par conséquent unifié. Donc nous étions dans le livre des Nombres, nous sommes mis en présence, nous sommes à la deuxième année. Il y a donc un an que la Pâque a été célébrée, que le peuple est sorti d'Égypte, et Dieu maintenant dispose des choses. On a commencé la marche au désert, et Dieu dispose des choses pour que l'ordre soit maintenu au milieu de ce peuple, et que le service qui lui revient lui soit rendu selon sa pensée. Alors, le peuple d'Israël est distribué en ses compagnies diverses, des combattants, des lévites ou serviteurs et des sacrificateurs. Encore un mot, vous remarquez que les lévites n'ont pas été dénombrés dans le chapitre 1 en même temps que les fils d'Israël. Quand nous envisageons des lévites, nous pouvons dire que c'est un type de l'assemblée que nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas compté
avec la terre, en relation avec les familles de la terre. Nous n'avons pas de fonction, nous n'avons pas de relation, nous n'avons pas de bénédiction sur la terre. Nous n'avons rien en relation avec les nations de la terre. Toutes nos bénédictions sont au ciel. Dès qu'un croyant est venu au Seigneur, il appartient à Dieu, il est en dehors du temps et en dehors du monde. Ses bénédictions, c'est Éphésiens 1, dans les lieux célestes, par conséquent là où le temps ne compte pas. Un croyant qui est sauvé par l'œuvre de Christ, il appartient au Seigneur et il est en dehors du temps qui compte pour le monde, pour la terre, et en dehors de la terre puisqu'il est associé avec le Seigneur au ciel. Donc, ce sont des choses très différentes. Nous sommes dans cette grande famille de Lévites qui contenait les sacrificateurs. Nous n'avons pas été dénombrés avec les autres tribus des fils d'Israël. C'est un peuple qui habite un seul, Israël du milieu des nations. Les Lévites choisis du milieu d'Israël, nous choisis du milieu de la terre, tirés du monde, pour appartenir au Seigneur, sans que nous appartenions encore, en quelque mesure que ce soit, dans les rangs de ce monde, sous quelque aspect qu'il se présente. Retenons bien ces choses, elles sont de la plus haute importance. Vous voyez dans le verset 47 du chapitre 1er que les Lévites n'avaient pas été dénombrés parmi les fils d'Israël. C'est l'image de l'Assemblée qui n'a pas de position, de fonction en relation avec le monde. Une chose aussi très remarquable, c'est que, si on fait bien attention, Dieu avait déjà parlé d'Aaron et de ses fils dès le commencement, avant toute autre disposition. Nous étions dans les pensées de Dieu de toute éternité. Et dans notre chapitre 3, et encore seulement ce petit mot, dans notre chapitre 3 du livre des Nombres, les générations d'Aaron qui sont données au jour, remarquons le premier verset, au jour que l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Dès que Moïse est monté sur la montagne, au chapitre 24 du livre de l'Exode, et qu'il se trouve par voie extrêmement privilégiée sur la montagne où personne n'a pu monter et recevant toutes les communications de Dieu, c'est déjà dans ce moment-là que Dieu parle d'Aaron et de ses fils qui deviendront les sacrificateurs. En effet, le chapitre 28 qui nous introduit dans ces privilèges particuliers donnés à Aaron, cette disposition, elle est prise sur la montagne où Moïse se trouve depuis le chapitre 24. Donc avant de parler du désert, avant de parler des grandes dispositions que Dieu va faire, le désir de son cœur, c'est d'être connu, d'être adoré. Et il le montre dans ce chapitre 28, lorsque Moïse est sur la montagne, en disant, eh bien, fais approcher Aaron, ton frère et ses fils, du milieu des fils d'Israël, pour exercer la sacrificature. Donc, dans ces Lévites qui n'ont pas été dénombrés avec les fils d'Israël dans le nombre 1, il y a même la famille sacerdotale qui occupe une place privilégiée. Elle a déjà été choisie par Dieu sur la montagne de Sinaï, lorsque Moïse est monté pour la première fois sur cette montagne et qu'il peut parler avec Dieu face à face. Dans ce premier entretien, sur le sommet de la montagne, une des dispositions du cœur de Dieu si précieuse à constater, c'est qu'il dit à Moïse, j'ai besoin que ton frère et ses fils soient approchés de moi pour exercer la sacrificature. Ils représenteront Israël, dont je veux faire un peuple de sacrificateurs, autrement dit d'adorateurs. C'est le service le plus élevé, le plus précieux. Il a fallu que nous soyons singulièrement égarés pour affirmer que les services les plus précieux étaient ceux qui s'exercent à l'extérieur pour proclamer l'Évangile, si précieux que soit ce service, bien sûr. Mais il a fallu que nous soyons singulièrement aveuglés pour oublier que le premier des services, c'est celui de la louange, celui qui remplit le cœur de Dieu de joie, d'avoir ses enfants autour de lui, qui ont la révélation de lui-même, connu comme lumière et amour, et qui peuvent lui adresser la louange qui répond aux besoins de son cœur. Combien n'y aurait-il qu'un fait ? La louange que nous rendons au culte, en faiblesse, dans les larmes, dans l'épreuve, nous ne cessons jamais de la rendre. C'est le seul service qui sera rendu pendant toute l'éternité. Tous les autres services, si précieux soient-ils, celui-ci, de présenter la parole, si faiblement que ce soit, nous n'en aurons plus besoin au ciel. Tous les services cesseront, sauf celui de la louange, et nous le voyons dans toute sa véritable dimension en Apocalypse 1, lorsque tous ensemble, d'un seul cœur, nous chanterons les gloires de l'agneau. J'ai formé ce peuple pour moi-même, nous raconterons ma louange. Isaïe 43, verset 21. Dans un sens, il s'agit là du peuple terrestre. Et pourtant, nous avons vu, et nous insistons sur cette pensée, que le peuple terrestre comportait des familles, des distinctions. Il y avait ces trois caractères qui ont été remarqués. Un peuple de combattants, un peuple de guerriers, les hommes recensés étaient ceux qui étaient propres au service militaire. Il y avait donc la famille, la tribu des Lévites, et puis la famille sacerdotale. Et puis on pourrait ajouter un quatrième caractère, c'est un peuple qui marche, qui traverse le désert. Et ces quatre grands caractères, nous les trouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, d'abord, le rappel de la position de l'Église, assise dans les lieux célestes. Il semble que tout est terminé pour elle, qu'elle n'a plus qu'à se reposer dans les privilèges reçus. Et dans un sens, c'est vrai, c'est là notre position. Mais à partir du chapitre 4, l'apôtre dit, eh bien voilà l'appel céleste, mais je vous exhorte à marcher d'une manière qui en est digne. Alors il y a les différents aspects rappelés tout à l'heure, la marche, elle est très souvent mentionnée dans l'Épître aux Éphésiens, on en a au moins 7 mentions, marcher, nous sommes donc un peuple en marche, tout en étant assis dans les lieux célestes, nous marchons. Ça semble paradoxal, contradictoire, mais nous sommes sur la terre seulement. Sur la terre, nous utilisons les ressources du sanctuaire et nous marchons en fonction de la position qui est la nôtre. Ça marche. Et puis nous avons la louange. Alors, dans plusieurs mentions de la louange, nous avons à rendre grâce par lui à Dieu le Père. Nous avons l'adoration qui doit monter nos cœurs et qui est la réponse normale du croyant à son Dieu. Nous avons le service, plusieurs reprises, et en particulier au chapitre 4, nous avons les différents dons que le Seigneur monté au ciel a donné à son Église. Il est dit en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Là voilà la famille des Lévites. Et enfin, nous avons le combat, nous le savons, chapitre 6. Nous avons l'ennemi, nous avons l'armure, donc les ressources pour faire face à cet ennemi. Nous avons donc bien tous ces caractères que nous portons dans ce monde, combattants, serviteurs, adorateurs, et marchands, c'est-à-dire fournissant la traversée de ce monde. Dans l'Épître aux Romains, nous avons la même structure. On pourrait dire que l'Épître, quoique le sujet ne soit pas aussi élevé, nous le savons, mais la fin du chapitre 11 est de toute beauté, c'est une doxologie, une note d'adoration sur laquelle on terminerait volontiers l'Épître. Et on pourrait se dire, eh bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de cette note-là? De lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Amen. Eh bien, chapitre 12 continue. Et avec un donc qui établit la relation entre ce qui suit et ce qui précède. Je vous exhorte donc, frères, pour les compassions. Et quelle va être l'exhortation? Eh bien, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service. Intelligent, votre service intelligent. Le mot service, semble-t-il, en original, donne plutôt la note de rendre culte, plutôt qu'une activité extérieure. Et si on veut savoir de quel service il s'agit, alors on a ensuite, après la louange, qui est la réponse normale du cœur du croyant à ce que son Dieu a fait pour lui, dans tous ces 11 premiers chapitres, nous avons ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait en nous,
ce qu'il a fait de nous, tout ça nous est déployé dans tous ces chapitres. Et alors maintenant, c'est comme si l'Esprit de Dieu nous arrêtait et disait, eh bien, maintenant, quelle va être ta réponse? Je vous exhorte donc, la même chose que dans les Éphésiens, je vous exhorte donc, un donc, le chapitre 12 des Romains commence comme le chapitre 4 des Éphésiens, je vous exhorte donc, et ce donc lie à tout ce qui précède et nous établit dans notre responsabilité de croyants. Bon, le premier livre des Chroniques, on a quelques versets qui mettent ce que nous venons d'entendre bien en évidence dans la famille d'Aaron. En Chronique 23, afin de rappeler ces versets, verset 13, nous lisons ceci. Les fils d'Abraham donc étaient Aaron et Moïse. Abraham, Kéat, Lévi, vous voyez la chaîne. Donc, verset 13, nous avons fait le virgule. Et Aaron fut séparé pour qu'il fût sanctifié comme très saint, lui et ses fils. Aaron est donc séparé, sanctifié, mis à part, comme très saint, lui et ses fils. Nous occupons avec le Seigneur une position de mise à part, sacerdotale, très sainte, car elle s'exerce. Cette fonction sacerdotale dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Mais voyons la suite. À toujours, notre service ne prendra jamais fin. Après l'avoir accompli sur la terre, dans des limites bien faibles sans doute, conscients de nos infirmités, nous allons le poursuivre en perfection, à toujours, chantons quelquefois, à toujours. Et comme nous sommes heureux de penser que bientôt, ce toujours, aura son début pour ne plus jamais s'interrompre lorsque le Seigneur viendra. Donc, être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à toujours. Pour que faire? Voilà, jamais. Pour faire fumer ce qui se brûle devant l'Éternel. D'abord le culte, faire brûler ce qui se brûle devant l'Éternel. Faire brûler l'encens, faire brûler l'holocauste, c'est le service sacerdotal. Ensuite, pour faire son service et pour bénir en son nom. Et le service qu'ils avaient à rendre était subordonné à celui de l'autel, à celui de l'offrande, de l'encens, de l'holocauste que l'on brûlait sur l'autel, et pour bénir en son nom à toujours. Et on remarque dans cette expression quelque chose qui ressort de tout l'enseignement de la parole de Dieu. Quand est-ce que l'Église a été utile au monde? Quand a-t-elle été, selon la pensée de Dieu, un instrument utile pour le monde? En s'associant avec lui, c'est le contraire. Mais dans sa position de séparation, l'Église était utile au monde, car là au moins, elle était une lumière pour lui montrer qu'il était dans les ténèbres. Quand est-ce que nous sommes utiles au monde? En nous associant avec lui, pour essayer d'en améliorer les conditions, c'est absolument le contraire. On a l'exemple bien connu d'Isaac à Guérard dans le livre de la Genèse. C'est quand il est sorti de la vallée, c'est quand il est enfin loin de toute association, en dehors de tout ce que le monde plaçait devant lui, c'est alors qu'il pourra être utile. On peut dire cela dans le chapitre 26 du livre de la Genèse. Chacun pourra voir que c'est à partir du moment où Isaac s'est séparé de toute association quelconque, qu'il peut bâtir un autel à l'Éternel et qu'il est vraiment utile à ceux qui l'entourent. Donc nous avons, dans ce verset cité dans Chronique 23, remarquons bien, Aaron, comme très saint et ses fils dans leur séparation, faire fumer ce qui se brûle devant l'Éternel et faire son service. Et après tout, quel est le service? Nous n'avons pas besoin de tourner une seule page, nous avons le service dans le chapitre 25. Et là, nous avons les différentes dispositions. Ce serait trop long de lire, c'est pas ça, chacun pourra les lire. Mais c'était, fin du verset 3, pour célébrer et louer l'Éternel. C'était au verset 5, pour exalter sa puissance, c'est-à-dire pour élever la corne de l'Éternel, pour raconter toute la puissance déployée dans l'œuvre de la foi, dans sa défaite apparente, remportant
une victoire de la plus haute valeur sur la puissance de l'ennemi qui détenait le plus grand pouvoir qui soit dans ce monde, c'est-à-dire la mort, pour exalter la puissance, pour élever la corne de l'Éternel. Verset 6, dans le champ de la maison de l'Éternel. Voilà différents aspects du service de ceux qui étaient au verset 7 instruits dans l'art de chanter. Le petit, verset 8, n'est-ce pas encourageant pour ceux qui sont jeunes, le petit comme le grand, l'homme expert comme le disciple. Il n'y a pas de différence. Pour ce service de la louange, l'homme expert, le disciple, le petit comme le grand, peuvent chanter. Ils sont sacrificateurs sur un pied d'égalité en vue de rendre à Dieu ce qui lui est dû. N'est-ce pas merveilleux de voir qu'il y a déjà dans ce type de l'Ancien Testament, ces vérités si précieuses, le petit comme le grand, l'homme expert comme le disciple, unis ensemble dans ce service sacerdotal, caractérisé par l'unité et par l'égalité, pour présenter à Dieu le chant, la louange, élever la corne de l'Éternel, et en même temps chanter sous la direction de ceux qui étaient intelligents. Nous devrions chanter avec l'esprit sans doute et avec intelligence, car tous ceux qui s'occupaient du chant, il est dit dans ces passages, c'était des gens intelligents.
Sans vouloir trop anticiper, je voudrais faire remarquer que dans ce chapitre 23 du premier livre des Chroniques, nous avons l'établissement en gloire de Salomon, puisque ce chapitre commence par ceci, il établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Donc, les services que nous y trouvons seront, on peut dire, réalisés d'une manière parfaite quand nous serons parvenus dans la maison du Père, n'est-ce pas, dans le ciel, autour du Seigneur. Mais il s'y trouve un verset que j'aimerais lire en, à suite de ce qu'a dit tout à l'heure notre frère M. Péclin, au verset 26, il est dit « Les Lévites aussi n'auront plus à porter le tabernacle, ni tous les ustensiles pour son service. » Et tout à l'heure, on a mis l'accent sur le fait que, présentement, les chrétiens sont appelés à marcher. Marcher, ils marchent vers le soleil levant, si on peut reprendre l'expression aussi du livre des Nombres. Du moins, nous devrions toujours marcher vers le soleil levant. Parce que nous ne pouvons pas oublier que ce livre des Nombres est hélas aussi un livre où il y a eu dans le peuple de Dieu, sur la terre, des périodes très importantes où ce peuple a hélas tourné littéralement le dos au but qui lui était assigné. Mais ce qui est important, c'est que dans le chapitre 4, nous aurons peut-être l'occasion de voir dans la journée, si le Seigneur le permet, chacun de nous, en le lisant, a pu remarquer ce petit mot qui revient constamment, le mot « porter ». Porter, il fallait porter. Porter ce que Dieu avait donné à porter. Chacun était à son fardeau, chacun à son service. Tout ceci est mis donc en relation avec la marche, le croyant à accomplir une marche qui a un but, et ce but est un but céleste, et il a apporté le témoignage qu'il lui est confié de la part du Seigneur. Mais il y aura un moment béni, encore une fois, où alors il en sera fini de la marche. Nous n'aurons plus à porter. Et présentement, c'est un des aspects de ce service que le Seigneur place devant les siens.
C'est-à-dire un mot dans le chapitre 4. L'œuvre du portage, un mot qu'on ne rencontre pas souvent, le portage. Ils étaient tous occupés au service du portage, chacun selon son service, chacun selon sa charge.
Nous aimerions insister sur un point tellement essentiel, celui du fait que ce qui est attendu de Dieu, c'est d'abord l'adoration. C'est absolument essentiel. On a dévié énormément, justement, en ne comprenant pas que la première chose qui est attendue de Dieu, c'est l'adoration. En Jean 4, le Père en cherche de tel qu'il l'adore. C'est la première chose qui est apportée. Ensuite, nous avons dans les Épîtres des enseignements relatifs au service. D'autre part, nous découvrons par exemple à la fin d'Exode 10 que l'intelligence pour tout service à la gloire de Dieu se prend là. Lorsque Moïse, par exemple, dit « Mais nous ne savons pas comment nous aurons à servir jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. C'était dans la séparation, en offrant à l'Éternel ce qui lui était dû, là était apprise en même temps l'intelligence du service. Et c'est dans l'expression de l'adoration, dans la première chose qui revient à Dieu, que les rachetés apprennent à réaliser ce qui est selon son cœur, ce qui convient dans sa présence, ce qui correspond à ses caractères, et alors les services qui ne sont pas celui de l'adoration peuvent être réalisés avec intelligence. C'est important parce que on entend dire par exemple parmi les jeunes, eh bien, je suis appelé à tel service. Et voilà que les jeunes qui affirment être appelés à un service n'ont pas réalisé qu'il convenait d'abord de connaître ce qu'était la table du Seigneur et le service de l'adoration. De sorte que nous pouvons affirmer aujourd'hui que prétendre, sans avoir réalisé ce qu'est le terrain du témoignage, le service de l'adoration, la table du Seigneur, eh bien, ce n'est pas l'ordre de Dieu. Dans l'ordre divin, on s'approche d'abord de la table du Seigneur, et ensuite, ayant l'intelligence des choses de Dieu, on peut être appelé à un service.
Dans les temps du 112, debout.
Le 3, 4, 5 et 6. Et pour suivre peut-être un peu ou pas dans 2h30, notre étude ce matin.
De la mise à part dont nous avons parlé, mais l'efficacité de la purification et de la séparation qui était nécessaire pour eux. Nous lisons en effet que l'Éternel parla à Moïse et disant, prends les Lévites du milieu des fils d'Israël et purifie-les. Et tu le feras ainsi pour les purifier. Tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification du péché. Et ils feront passer le rasoir sur toute leur chair.
La part d'Aaron est son héritage. Nous chantons quelquefois le Seigneur est ma part, mon salut. Le Seigneur dit, Aaron, tu n'as rien d'autre sur la terre, mais tu as la part, la vie d'excellence et puissance. Je dis, ta part est ton héritage. Nous ne voyons que le terme sacrificature dans le premier verset. Dans les premiers versets, à partir du verset 5, comme notre frère vient de le faire remarquer, nous avons alors servir, service, service. Nous avons quantité de fois pour nous montrer que c'est exact, c'est absolument ce qu'il nous reste à faire. Après la sacrificature, servir. Vous voyez au verset 7, afin qu'il le serve, qu'il serva en sans doute. Le service au verset 7 encore une fois, le service encore une fois, le service encore une fois au début du verset 8, le service à la fin du verset 8, le service encore une fois à la fin du verset 8. Nous avons quantité de fois le service, le service, le service pour les fils de Lévi. Et nous ne rencontrons pas le terme dans le premier paragraphe, il s'agit seulement de la sacrificature, comme les choses sont bien séparées. Mais enfin, vous voyez, chers amis, tout ce qui a été confié à la main de l'homme a été marqué tout de suite par la rue. Le premier jour de leur intronisation dans un service est merveilleux. L'Esprit de Dieu doit nous rappeler que la sacrificature était déjà frappée en raison de son égard. Le fils d'Aaron son corps.
Et
thank you.
Les fils de Lévi à part, ils sont à moi, comme
je m'étais attribué les premiers-nés en Israël, demandant ensuite les fonctions diverses des familles de Gershon, de Kehath et de Merari dans les versets qui suivent. Remarquons en passant au verset 22 qu'il y avait au-dessus de la famille des Lévites un fils de Kehath qui est Éléazar et qui est appelé le prince des princes, fils d'Aaron, le sacrificateur établi sur ceux qui avaient la charge du lieu saint. Nous avons donc ici, chers amis, une gloire particulière du Seigneur présentée devant nous. Sans doute Aaron est un type de Christ, le grand, souverain, fidèle, miséricordieux sacrificateur. Mais une sacrificature d'un rang bien plus élevé que celle que remplissait Aaron. Par le psaume 110 annonce qu'il y aurait un jour un sacrificateur selon le rang de Melchisédek, infiniment supérieur à celui d'Aaron. C'est bien la gloire du Seigneur qu'il possède maintenant au ciel, salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon ce rang le plus élevé qui soit, celui de Melchisédek, dont nous avons déjà la mention dans le premier livre de la parole de Dieu, au chapitre 14, qui dit Nazmer, après la victoire des rois, après la victoire d'Abraham sur les rois, Melchisédek entre en scène, nous annonçant qu'un jour, quelqu'un remporterait la victoire sur toute la puissance du diable, sur toutes les puissances spirituelles de méchanceté liguées contre lui, mais dont il avait triomphé en sa croix, ayant remporté cette victoire définitive, complète sur l'ennemi, Dieu l'a haut élevé, l'a salué, le faisant asseoir sur son trône. Je te salue, souverain sacrificateur, selon le rang de Melchisédek. Mais en même temps que le Seigneur possède ce devoir de sacrificateur, il est aussi établi sur la maison de Dieu. Et nous avons la mention d'un autre personnage, fils d'Aaron, fils de Kehath, Éléazar, qui est appelé le prince des princes. Quel titre précieux pour nous, celui qui a souffert, qui a été humilié, qui a connu la honte de la croix. C'est celui-là qui va paraître bientôt comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Je ferai de lui le plus élevé, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, le prince des princes devant lequel toute autorité se courbera, quelle qu'elle soit, les puissances terrestres, célestes et infernales devront se courber devant celui que Dieu a appelé. Celui à qui Dieu a donné ce titre de roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur, prince des princes, à la gloire de Dieu le Père. Nous reconnaissons déjà maintenant dans l'Assemblée cette autorité qu'il déploiera demain à l'égard du monde, qu'il soumettra tous ses ennemis étant mis placés sous ses pieds. Et nous reconnaissons déjà aujourd'hui l'autorité du Seigneur sur nous dans l'Assemblée. N'est-il pas le chef de l'Assemblée? Lorsque Éléazar était fils de Christ, était prince des princes, et c'est lui qui avait donc la direction de toute la sacrificature, de tout le service sacerdotal, il était établi sur ceux qui avaient la charge du service dans le lieu saint, sur tout le service des Lévites. Aaron au-dessus de la famille sacerdotale, Éléazar au-dessus de tous ceux qui avaient la charge du service. Nous avons encore la mention de son nom au verset 16 de ce chapitre 4 qui a été examiné en partie devant nous. C'est Éléazar, le fils d'Aaron, qui avait la surveillance sur toutes les choses qui sont énumérées. Nous ne sommes donc pas sans direction. Nous avons d'abord un grand souverain sacrificateur et nous avons ensuite le Seigneur qui détient toute autorité dans l'Assemblée. Nous ne sommes donc pas livrés à nous-mêmes. Nous n'avons aucune place pour l'autorité humaine, pour les arrangements humains, pour toute organisation, quelle qu'elle soit, si bien décorée soit-elle, elle n'a aucune place dans l'Assemblée où nous avons à reconnaître tous les droits du Seigneur sur nous, sur tous les siens et sur tous les services qui s'accomplissent dans l'Assemblée. Éléazar était le prince des princes. Nous verrons qui oubliait ce qui était dû à Dieu, aussi bien la mort du sacrificateur que la mort de l'Église. Nous avons l'occasion d'y revenir dans notre chapitre 18. Nous avons la même expression ici dans le chapitre 4 qui a été lu, la crainte que les fils de Théâtre soient frappés par la mort. Ne faites pas que la tribu des familles de Théâtre soit retranchée dans une église. Faites petit pour eux afin qu'ils vivent et ne meurent pas. C'est un avertissement très solennel qui est donné à la famille de Théâtre, à la famille de serviteurs qui se seraient arrogés le service des sacrificateurs, la charge de la sacrificature. Mieux avait distingué soigneusement ces deux fonctions, il n'était pas possible de les cumuler. Dans l'église protestante, nous savons que tout cela a été méprisé. Et dans le chapitre 18, nous avons aussi un avertissement à l'égard de l'Aaron de ses fils, verset 3 au milieu du verset, seulement ils n'approcheront pas des ustensiles du Dieu saint et de l'autel, de peur qu'ils ne meurent, eux et vous aussi. C'est-à-dire donc des serviteurs qui auraient pu s'approcher, contrairement à la pensée de Dieu, étant ainsi frappés de mort, et non seulement eux, et vous aussi, dit l'Éternel à Aaron. Donc, un avertissement solennel, et que lisons-nous dans l'Apocalypse, hélas, c'est l'état de l'Église protestante, l'Église décadente, ayant perdu toute spiritualité, ayant perdu toute capacité spirituelle de s'occuper des choses saintes, a dû faire appel à un clergé, à des lévites. Mais voilà la mort à frapper les uns et les autres, le Seigneur de venir à l'église de Carme avec une grande tristesse. Il y a le monde de vivre, mais qui est mort. De peur qu'il ne meure, eux et vous aussi. Tout aussi bien le clergé que ceux qu'il représente qui ont été frappés par cette mort spirituelle. Il y a le monde de vivre, mais qui est mort. C'est l'aboutissement de ce chemin de décadence qui commence par Éphèse en abandonnant le premier amour. C'est le moment pour nous de nous oublier que nous avons non seulement un grand souverain sacrificateur, mais que nous avons aussi Éléazar, prince des princes, celui qui détient toute autorité et devant lequel nous avons à nous courber et à nous soumettre. Nous sommes entièrement donnés, comme vous l'avez dit ici, nous l'avons satisfait du verset 13 par rapport à l'Éternel lui-même. Ils me sont entièrement donnés du milieu de l'Esprit d'Israël que les étaient pour moi. Le verset 19, le chapitre 8, et j'ai donné les Lévites en don à Aaron et à ses fils, du milieu des fils d'Israël. Dans notre chapitre 3, nous avons le verset 9, qui donnera les Lévites à Aaron et à ses fils, qui lui sont absolument donnés dans le fils d'Israël. On remarque que nuance qu'on attendrait dans la seconde partie de la phrase, ils leur sont absolument donnés dans les fils d'Israël. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils, lui, sont absolument donnés. La prééminence de celui qui est premier né en plusieurs. Mais malgré tout, les Lévites sont au service des sacrificateurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est le service de tous les croyants, parce que tous les croyants sont sacrificateurs. Autrement dit, nous avons à nous employer au service de nos frères, quel qu'il soit. Nous ne sommes pas à l'Assemblée. Nous voyons des croyants, nous sommes appelés à nous intéresser à eux, à nous occuper d'eux, peut-être pour leur apporter quelques enseignements, quelques instructions qu'ils ont méconnues jusqu'ici. On parlait de tour du Seigneur, en particulier des occasions qu'ils nous ont données. Un point intéressant aussi, c'est l'âge, les tranches d'âge de chez les Lévites. Comme dans le chapitre 3, nous avons le recensement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. C'est différent du reste du peuple. Le reste du peuple, c'était ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui avaient 20 ans. Mais ici, c'est depuis l'âge d'un mois. Et on pense à Jérémie, à Paul, il n'y a pas
et le ventre de leur mère, qui le disent. Si le croyant est élu, comme les chrétiens nous le rappellent, en lui, avant la fondation du monde, l'élection, elle plonge ses racines dans l'éternité passée. Mais le choix, la détermination d'un serviteur, c'est beau de le voir attaché à sa naissance, à son entrée dans le monde. C'est un encouragement pour les mamans qui portent un enfant et qui peuvent déjà prier pour ses enfants dans le désir qu'ils soient en bénédiction, pas seulement sauvés, mais utiles comme serviteurs, une âme avec son petit Samuel. Depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il ne pouvait pas faire grand-chose dans l'idée d'un mois, mais il était recensé parmi les bénis. Alors au chapitre suivant, chapitre 4, nous voyons un autre dégoût. Et ce sont les mâles depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. La pleine vigueur, la pleine force. Le moment où les facultés, les capacités sont le plus propres à ce qu'elles. Mais cette période-là est comptée particulièrement, on en est davantage responsable. Il y a une période pour le service. Nous pouvons le dire aux jeunes frères, ne laissez pas passer des années. On ira peut-être passer devant vous quelque chose, mais il ne faut pas attendre. Au chapitre 8, alors nous aurons un conte différent. À la fin du chapitre 8, de Pierre-Martial, verset 24, c'est ici qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans. Et au-dessus, le Lévite entrera en service pour être employé à la tente d'assignation. Et depuis l'âge de 50 ans, il se retirera du labeur du service et nous servira. On voit que la limite supérieure est la même, 50 ans, mais la limite inférieure est ramenée de 5 ans du jeune. Est-ce que ce n'est pas pour nous suggérer qu'il y a une période de préparation au service? Il y a peut-être un temps où on reste à côté d'un sacrificateur, d'un serviteur pour apprendre, pour écouter, pour ne pas partir trop vite. Et puis à l'âge de 30 ans, on est en pleine vie. Tout ceci est spirituel, bien sûr. Nous n'avons pas à nous fixer des âges correspondants, n'est-ce pas, à la nature. Mais plutôt de voir ces étapes envisagées dans la vie d'un serviteur. Il n'y a pas les ventres de sa mère, puis le moment venu appelé à l'école, puis servant, dans la pleine force de ses facultés. Puis à l'âge de 50 ans, nous avons compris quelque chose au chapitre de Philippe. Se retirera du labeur du service et ne servira plus. Et il s'emploiera avec ses frères à la fin de l'assignation pour garder ce qui doit être. Alors on a un autre aspect là du service, moins actif, mais combien utile, conservé, protégé, préservé ce qui a été placé entre nous. Ne pas en apprécier toute la valeur en fonction de l'expérience qu'on a, mais le garder, veiller sur. Veillez sur ce qui est si précieux au cœur de vous. Mais c'est encourageant aussi pour peut-être pour des frères qui n'ont plus un potentiel, une puissance de travail, peut-être un champ aussi étendu pour leur activité, mais ils ont à garder précieusement ce que le Seigneur a placé en eux.
Les Lévites pour moi depuis l'éternel. Et puis, au verset 45, les Lévites seront à moi depuis l'éternel. trois fois nous retrouvons la même pensée mais avec une nuance. La première, ils seront à moi. Vous n'êtes pas à vous-même, vous avez été acheté à prix. La deuxième, comme on le voit dans notre livre, ils seront pour moi. Et c'est peut-être davantage dans le sens du service, ils seront pour moi. Nous ne sommes pas nous-mêmes, nous sommes pour lui. Et alors nous pensons à ce qui est dit identique quand il nous dit que le Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous racheta de toute l'iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, donné pour les hommes de Dieu. Ils seront à moi, ils seront pour moi.
David, après avoir en sa propre génération servi au conseil de Dieu, on a parlé des jeunes pères, des nécessités, d'une inconscience de ce que le Seigneur a pu placer devant eux. David n'a pas attendu qu'un âge avancé, qu'il ait d'avoir atteint un âge avancé pour s'engager dans les rangs du service, mais en sa propre génération. C'est dans notre propre génération que nous avons de servir. Il peut arriver que des temps difficiles amènent le Seigneur à baisser l'âge du service. Lorsqu'on ouvre le livre des Esdras, c'est un temps difficile où le peuple est remonté de la captivité dans des conditions que chacun connaît, marquées par la pénurie, la pauvreté, le dénuement. Et le nombre des Lévites n'est pas très élevé comparativement à ce que nous trouvons en faisant la proportion dans les chiffres cités au livre des nombres, en comparant le nombre des Lévites et ceux du peuple, en comparant le nombre des Lévites au jour de Salomon avec le nombre des hommes du peuple dénombrés par David, dans le fâcheux de condition sans doute, mais nous avons le nombre, on peut établir chaque fois une proportion. Et quand on lit au livre des Esdras qu'il y avait seulement 314 Lévites, c'est un chiffre bien inférieur à celui du commencement, au jour du désert, bien inférieur à celui des beaux jours de Salomon. Et pourtant, leur service est nécessaire. Esdras ne voudra pas se mettre en route lors du deuxième exode, en constatant qu'au milieu de la congrégation qui remonte avec lui à Jérusalem, il n'y a plus de Lévite, il n'y en a plus aucun. Alors, Esdras se dit, nous ne pouvons pas nous mettre en route vers Jérusalem sans qu'il y ait des Lévites avec nous, pour les serviteurs que le Seigneur a choisis pour le service du peuple, pour le service de l'Éternel. Et on en voit périr dans la campagne quelques Lévites qui viennent se joindre à cette congrégation. Mais les conditions sont telles que le Seigneur dit, c'est à partir de 20 ans que les Lévites serviront désormais dans ces jours-là. Plus de 25 ans, de 30 ans, dans d'autres cas, au jour des bras, vous pouvez voir dans le chapitre 2 de son livre que l'âge est abaissé jusqu'à 20 ans. Ceux qui sont remontés de la captivité établirent les Lévites, chapitre 3 du livre des bras, par exemple, le Lévite, ils établirent les Lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. L'âge est donc abaissé, le nombre de Lévites étant restreint. Le Seigneur engage dans les rangs du service des éléments plus jeunes, qu'il a formés sans doute lui-même et qui ont à cœur de le servir. La faiblesse de l'état de choses dans lequel nous nous mouvons aujourd'hui, au lieu d'être une cause de découragement, doit inciter nos jeunes frères à faire comme David, à servir en leur propre génération et à écouter l'appel de l'apôtre à Timothée, occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, que personne ne méprise ta jeunesse.
Rappelons aussi deux versets dans l'Évangile de Jean, chapitre 17 et verset 9. Je fais des demandes, dit Seigneur, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Au verset 12, un peu plus loin, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Le Seigneur parle ici en étant le souverain sacrificateur.
Se pourrait bien aussi que les fruits ne tiennent pas les promesses du cœur. Si la pensée du Seigneur, c'est que tout le sien soit tout en propre, employé pleinement à son service, il nous faut peut-être bien aussi, en baissant la tête, constater qu'il n'en est pas ainsi. Il faut toujours cette réponse du cœur. Je pensais à un passage que nous connaissons tous, que je vais simplement citer, c'est dans l'Épître. Deuxième Corinthiens, d'abord ce que dit l'apôtre, qui a été cité d'ailleurs ce matin, l'Épître 5, verset 14, il dit l'amour du Christ nous étreint. Et il dit pourquoi ? Parce que nous avons jugé ceci, c'est que si un est mort pour tous, tous, donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort a été ressuscité. Nous savons avec quelle tristesse, dans une autre épître, l'apôtre devra constater que tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Je vais penser à ce que nous avons dans cette deuxième épître aux Corinthiens, aussi au chapitre 8. Nous avons vu tout à l'heure que dans la pensée de Dieu, c'était clair, nous sommes entièrement donnés au Seigneur, nous sommes d'abord donnés au Seigneur, puis au sien. Et on a mis l'accent très justifié sur le caractère d'humilité que ça doit avoir le service vis-à-vis de tous les croyants. Mais dans la deuxième Corinthiens, chapitre 8, nous avons, on peut dire, la réponse des cœurs. Il nous dit, l'apôtre rappelle, en parlant des saints, des assemblées de Macédoine, qui étaient pourtant une grande pauvreté, mais ils avaient demandé avec de grandes instances au verset 3, la grâce de la communion de ce service envers les saints. Et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement au Seigneur, puis à nous-mêmes, par la volonté de Dieu. Voilà, c'est une réponse du cœur, telle que le Seigneur attend. Et on va rappeler tout à l'heure, hélas, comment au moment de la captivité, au nombre des qui remontent tragiquement faibles. Et nous savons combien vite l'on court à son propre champ. Nous avons par exemple, au contraire, dans le Nouveau Testament de l'Église, qui s'appelait Barnabas, et la grâce de Dieu opérée dans son cœur, il avait un champ aussi. Il l'a vendu, il en a mis le prix, et les apôtres. La pensée du Seigneur, évidemment, c'est que nous étions formés, comme il l'a désiré, qu'il y ait cette séparation, le cœur. Pensez aussi tout à l'heure, parce que l'apôtre peut dire au sujet de son enfant Timothée, auquel il dit ici qu'il a pleinement compris son Dieu, constant, sa patience, etc. Et bien, il dit il a servi dans l'évangile comme un enfant qu'à son père. Voilà un encouragement, c'est-à-dire, pour mettre ce temps de formation que le Seigneur attend, c'est-à-dire, voir, pour s'applaudir avant de le faire, tellement dans un service actif. C'est à nous, qui est le Seigneur, de discerner. C'est-à-dire que ça doit être duré, pas pour que nous la précipitation, mais aussi, j'espère que nous passons du temps, car le Seigneur, c'est-à-dire que nous servions avec eux pendant notre propre génération. Et nous savons que le temps des cours, avant qu'ils viennent.
Au bas de la base, au chapitre 4 de notre
lequel on attachait la fidélité, agneur de cycle, labeur, souffrance et guerre. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans connaître du labeur, des souffrances et des luttes. Mais aussi, qui pourrait l'oublier, les joies d'une douceur incomparable. Alors, ne nous laissons pas décourager par l'état de choses, les luttes, les souffrances qu'il faudra connaître, mais connaître l'approbation du Seigneur, la communion du Seigneur dans le service qu'il a rendu lui en perfection, et jusqu'au don de sa vie, Père, que tu es glorifié sur la terre. Connaître les voies de la communion avec le Seigneur, c'est d'un plus inestimable et fait oublier tout ce que le service peut avoir de Dieu. Alors dans le chapitre 9, les chroniques, nous disons rapidement un mot, quels sont les premiers qui sont enregistrés dans leur possession? On a donc dans ces premiers chapitres toutes les listes des différentes familles du peuple. Par qui l'Éternel va-t-il commencer? Quelle est la famille qui est la première citée pour nous montrer que pour Dieu, c'est la famille qu'il a particulièrement devant lui? Au verset 2, les premiers habitants qui étaient dans leur possession, dans leur village, étaient Israël, les sacrificateurs. Donc eux, ils sont cités les premiers, et ensuite les Lévites. Toujours les sacrificateurs, avant les Lévites. Nous lisons maintenant les sacrificateurs au verset 10, et les sacrificateurs, ce sont ceux qui sont à Jérusalem, il y a tout. Les sacrificateurs, au verset 10, il est dit, au verset 13, ils étaient des hommes forts et vaillants pour l'œuvre du service de la maison de Dieu. Pas chose extraordinaire que, pour ce qui nous paraîtrait aujourd'hui, si dépassé le service du Seigneur, le culte que nous avons à rendre dans les conditions qui tiennent, à côté de ce qui peut attirer l'attention et séduire dans les manifestations religieuses où on apporte beaucoup de soins au décor, que l'on agrémente par toutes sortes de productions de la musique, que sais-je. Chacun sait bien de quoi nous voulons, de quoi nous parlons maintenant. Mais n'est-ce pas étonnant et n'est-ce pas aussi encourageant que ce sont des sacrificateurs que Dieu dit, ce sont des hommes forts et vaillants. Pour l'œuvre du service dans la maison de Dieu. Cher jeune frère, vous voyez, dans ce qui peut paraître aujourd'hui quelque chose de bien misérable dans nos cœurs, tant que nous aurions le lire, pourtant, le service que nous rendons pour le Seigneur, au Seigneur, ensemble, comme sacrificateur, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour Dieu. Quel que soit le temps, quel que soit la semaine, d'abord les sacrificateurs cités les premiers, ensuite, il est dit des hommes forts et vaillants, pas seulement pour manier l'épée, pour bander un acte d'erreur. Non, sans doute, c'est utile. Mais Dieu a fait des hommes forts et vaillants, ceux qui sont occupés à l'heure du service de la maison de Dieu, en relation avec la sacrificature, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe à l'intérieur du poil, dans le lieu saint, dans la présence de Dieu, pour lui offrir le sacrifice spirituel qui lui sont agréables pour l'éviter. Encore ce mot, dans ce même chapitre 9 que nous avons ouvert, puisqu'il m'a parlé de l'âge, des limites et du service, cela est bien précieux. Nous sommes au temps de la fin de la vie de David, au commencement du règne de Salomon. Évidemment, c'est une vue des temps d'avenir, mais nous pouvons aussi faire une application pour le temps présent. Au verset 24, il est question de portiers, et donc de Lévites maintenant. Et le service des portiers, si important dans nos jours, dans le témoignage du Seigneur. Ils étaient, remarquons bien, vers les quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. L'ennemi ne nous laissera jamais en repos. Il vient d'un côté ou de l'autre, du Nord ou du Midi, de l'Occident ou de l'Orient. Nous avons à être tenus sur nos gardes de tous côtés. Et du côté où nous semblerons qu'il soit le moins veillé, c'est évidemment de ce côté que l'ennemi se présentera. Ses portiers, au contraire, il est à l'heure vers les quatre vents des cieux. D'un autre côté, au verset 25, leur frère. Souvent, le service de portier est un service difficile. Elles qui ont la charge de s'occuper de ce service ne sont pas complets. On leur impute peut-être assez souvent de l'étroitesse. Et le manque d'élan vers des armes que nous souhaiterions voir introduire dans l'Assemblée plus rapidement que ces frères qui ont ce service de Lévite ne le proposent. connaissons bien les difficultés qui peuvent s'ouvrir à cet égard. Mais Lévite n'avait pas à ouvrir la porte avant que le soleil soit chaud. Et il dit dans Lévite, mais d'abord que les toutes choses soient bien claires, non la lumière, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Et voyez ici, leur frère, au portier au verset 25, coopérait avec eux, collaborait avec eux. Donc, au lieu de critiquer leur service et de mettre en doute l'opportunité de leur hésitation ou de leur réserve, leur frère, verset 25, dans le village, venait, leur frère, dans leur village, devait venir de 7 jours en 7 jours, d'un terme à l'autre, auprès d'eux. Ils ne venaient donc pas pour contrarier leur service, mais leur frère venait auprès d'eux. Ils avaient donc de la communion dans le service de Lévite. Nous avons les principaux portiers qui étaient Lévites, qui sont nommés au verset 26, et qui veillaient sur les chambres et sur les trésors de la maison de Dieu. Et il est dit, et ils se tenaient la nuit autour de la maison de Dieu. Quel service pendant la nuit pour mettre la maison de Dieu à l'abri de toute incursion quelconque, de toute entreprise de l'ennemi, qui profite de l'obscurité, qui profite de la nuit. Mais nous ne sommes pas de la nuit et des ténèbres. Nous sommes du jour, des fils du jour. De sorte que nous avons à régler toutes choses dans la lumière. C'est l'élite, garder la maison la nuit, et la garde, est-il dit, leur en appartenait. Car ils en avaient la clé pour ouvrir chaque matin. Et il y a là des enseignements très pratiques, très précis, très importants pour nous. C'est l'élite avait la garde de la maison, ils en avaient la clé, et ils faisaient le tour de la maison toute la nuit pour empêcher toute introduction de ce qui était tenté et contraire à la sainteté de Dieu, car la sainteté s'y est, dit-il, à ma maison pour de longs jours. Et en même temps, il veillait aux quatre vents. Un dernier mot concernant les fins de frères, fils de frères, dans le verset 30, c'était les fils des sacrificateurs qui composaient les parfums des aromates. Pas aussi important qu'à la mère d'enfant, où nous avons bien à pleurer, à nous humilier concernant l'abandon de beaucoup des autres qui, hélas, se sont égarés, cassés du chemin de la bénédiction. D'un autre côté, quelle bénédiction, quelle faveur de Dieu, quand un père peut compter sur l'obéissance de ses fils, sur la fidélité et la piété de ses fils, bien ce père peut ainsi présenter, accomplir le service que le Seigneur lui a confié. Car ce sont ses fils, après tout, qui l'aident dans ce service. Les fils des sacrificateurs préparaient, il dit, les parfums et les aromates. On sentira, évidemment, dans le service d'un frère, le soutien qu'il trouve dans la piété, la fidélité de ces jeunes garçons qui préparent pour lui les aromates et les parfums. Il y a là l'enseignement pour tous, jeunes et plus âgés, pour le plus petit comme le plus grand, avant nous ce matin, pour l'homme expert comme pour le disciple, tous nous sommes concernés par ce qui relève de la maison de Dieu et de la bénédiction, et par conséquent, tout cela subordonné à la bénédiction que Dieu veut nous donner aux uns et aux autres.
Il fait l'historique alors dans le chapitre 29 du second livre des Chroniques.
le premier paragraphe qui est bien remarquable et qui ne cache pas ce, ce qui s'est passé sous le règne précédent de l'infidélité. Mais alors il y a cette exhortation bien, bien utile, bien encourageante dans les temps fâcheux auxquels nous sommes parmi les versets 11. Maintenant mes fils, ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour que vous teniez devant lui pour le servir et pour être ses serviteurs et ceux qui lui offrent ce qui se brûle sur l'autre. Certes, pourtant, il est fâcheux, beaucoup de faiblesse, la ruine, mais maintenant, ne soyez pas négligents. Vous ne vous laissez pas décourager par en regardant autour de vous, mais remplissez fidèlement le service que le Seigneur a placé. Ne soyez pas négligents. Et si vous ne faites pas ce, ce, ce service, il n'y aura personne pour le remplir à votre place.